Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Affen & Co, Affen & Co, la collégiale de l'Affen. On en est aujourd'hui au numéro 403. Et donc, nous avons la chance de reprendre notre tradition de pèlerinage dans les associations amies pour voir un peu comment est-ce que elle fonctionne et voir des regards croisés avec l'Affen. Et donc, aujourd'hui, on va avoir la chance d'avoir AlGRH, qui est une association, comme son nom l'indique, de ressources humaines algériennes. Et donc, on a la chance d'avoir avec nous le vice-président de l'AlGRH, qui est Lamri Moussaoui, qui va nous présenter son association et qui va nous montrer toutes les opportunités qu'il y a à développer avec l'Algérie. Bonjour, Malri Moussaoui.
Bonjour, bonjour Stéphane et bonjour nos auditeurs.
Très, très bien. Eh bien, je vais de suite te poser une question classique. Qu'est-ce que c'est que l'AlGRH?
Très bien. L'ALGRH, c'est une association algérienne des ressources humaines. Donc, c'est un espace d'échange pour les responsables de la fonction RH. Donc, aussi, c'est un espace d'échange entre tous les DRH des entreprises et même pour les étudiants qui sont dans le domaine de la fonction aussi RH. Donc, l'association, son but principal, c'est soutenir les activités et les actions, les mesures, les études qui visent l'objectif ultime de valoriser les ressources humaines afin de les adapter aux besoins, bien sûr, actuel et prévisionnel de l'économie et de la société.
Et donc, ce sont des. Vous réunissez tous les. Combien?
Voilà. Pratiquement tous les responsables qui sont en charge de la fonction RH.
Très bien. Et il y a combien de membres dans l'association?
L'association peut, d'abord, sur le plan organisation, il y a le bureau constitué de 10 personnes. Toutes plutôt versées dans le domaine de la fonction RH avec une grande expérience dans la gestion. Et aussi, nous avons un conseil autour de ce bureau qui travaille aussi avec des commissions. Et dans la plupart du temps, nous avons des adhérents de la GRH. Cette association, elle existe déjà depuis 1993. Donc, c'est une ancienne association. C'est une association similaire aux autres associations qui sont au niveau des pays du bassin, mais notamment l'ANDRH de France. Nous avons l'ANDCP Sénégal, nous avons l'ALFOR Tunisie et aussi nous avons l'AGF Maroc. Donc, on travaille ensemble. Généralement, on organise des colloques, des séminaires, soit en Algérie, soit au Maroc, soit en Tunisie, soit en France. Moi, personnellement, j'ai assisté une fois à Euromed Marseille. Nous avons
Oui.
présenté, dans le projet Agora, nous avons présenté tout ce qui est pratique RH pour les pays du bassin méditerranéen. Moi, j'avais présenté, ou bien, si je parle, moi, si j'en parle de l'ALGRH, on avait présenter les pratiques de la RH au niveau des entreprises algériennes.
Et donc, pour une entreprise française, est-ce qu'elle peut adhérer à AlGRH?
En principe, en France, il y a une association, une entreprise, elle peut adhérer automatiquement en France. Mais par contre, alors, on peut échanger avec nous avons des consultants. Sans formateur en GRH, on peut travailler sur les expériences communes. Oui, pourquoi pas?
Très très bien. Lamri Moussaoui, et alors tu es expert RH, donc tu as longtemps travaillé dans les ressources humaines, dans les universitaires, voilà.
Oui, moi je travaille, toute ma carrière, j'étais dans la fonction RH. J'ai terminé en tant que cadre dirigeant pendant pratiquement 15 ans DRH d'un grand groupe industriel, JPEC, et puis DRH au niveau de l'EMPC, filiale de Sonatrach, pendant 9 ans. Et puis j'étais directeur de l'école PJ à Sétif, donc pendant 3 ans. Donc je peux dire que toute ma carrière est dédiée à tout ce qui est RH. Et puis depuis 2011 jusqu'à 2019, j'ai travaillé au niveau de l'université de Sétif en tant que enseignant associé pour les masters 2 GRH.
Très bien. Est-ce que toi, avec tout ton regard qui est à la fois universitaire, professionnel, est-ce que tu vois des différences entre les ressources humaines en Algérie et en France?
Certainement, la différence se situe au niveau de l'utilisation des nouvelles technologies, surtout le numérique. Et maintenant, avec la réalité virtuelle, on travaille beaucoup surtout à l'étranger, travaille sur les supports numériques. Dès qu'il y a un changement radical, ce concerne tout ce qui est formation. Maintenant, peut-être on n'aura plus de tableau noir, on n'aura plus de. Maintenant, il y a des supports numériques, des contenus à partir de la réalité virtuelle. C'est-à-dire, même sur le plan pédagogique, il y a un changement radical, on peut le dire. Nous, on est maintenant, on essaye avec des partenariats. Moi, personnellement, je travaille déjà avec un institut français à Paris, un institut français de formation énergétique, donc dédié au métier du froid. Donc, il y a beaucoup de supports de cours qui sont directement assistés par l'IA.
Pas
Voilà.
très bien. Et donc,
Hein?
l'intelligence artificielle, elle est développée,
Oui.
elle est en Algérie.
Timidement, timidement pour l'instant. C'est-à-dire, quand même, on essaye de s'accrocher. Et moyennant des partenariats, parce qu'il
D'accord.
y a, même au niveau des universités, maintenant il y a des jeunes qui sont vraiment, c'est des génies, qui travaillent sur l'IA, qui assistent dans le digital, la distinction des outils de gestion, parce que lorsqu'on parle de la formation, il y a toute une structure qui travaille sur la gestion de la formation, l'expression de besoins, l'analyse des besoins. Et maintenant, c'est l'IA qui fait tout. Maintenant, on peut analyser les besoins, on peut travailler sur l'identification et aussi pour le plan de formation. Maintenant, c'est l'IA, elle nous aide beaucoup, justement.
Et donc, l'Algérie, qui est un pays jeune, je ne connais pas les chiffres, mais donc sur une population de 50 millions, tu me dis si je dis une bêtise, il y a une grosse part de jeunes. Est-ce qu'ils sont bien formés à ces nouvelles technologies? Ou est-ce qu'ils découvrent par eux-mêmes?
Donc, la formation, bon, ça, bien sûr qu'il y a l'institutionnel, les universités qui ont déjà des instituts dédiés à tout ce qui est intelligence artificielle. Voilà, donc on est dans la troisième année pour la formation des ingénieurs. Donc, il y a l'institut de l'IA Alger, il y a l'Institut national de sciences et de technologie. Donc, on travaille surtout à l'utilisation de l'IA. Voilà.
Et dans les entreprises, est-ce que l'IA fait son entrée dans les entreprises?
L'entreprise, on doit d'abord situer quelle est la typologie de l'entreprise. Donc, c'est les TPE, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y ait des TPE qui utilisent l'IA. Vous avez la PME, la petite et moyenne entreprise, et vous avez les grandes entreprises. Les grandes entreprises, oui, on peut dire qu'il y a déjà un début d'utilisation de l'IA.
D'accord.
Et pas mal d'entreprises, même privées, qui sont très, très avancées dans le domaine de l'IA.
Et est-ce qu'il y a un alors ce qu'on est-ce qu'il y a des start-up en Algérie?
J'allais enclencher le discours sur justement la discussion sur les startups. Maintenant, l'État algérien encourage beaucoup la création des startups, parce que quand on dit startup, c'est tout ce qui est innovation,
D'accord.
ce n'est pas uniquement une simple TPE. Donc, mais c'est lorsqu'on dit startup, on met en relief toujours l'innovation. Il y a un ministère qui encadre les startups et les encourage, même l'État encourage beaucoup les startups avec l'organisation des Olympiades,
D'accord.
des concours. Oui. Donc, c'est d'abord sur le sujet d'actualité, monsieur Sliman.
Très très
Quand
bien.
Les startups, c'est le sujet d'actualité en Algérie. Et ça mérite quand même, les jeunes méritent, même s'ils sont des génies ou bien ces gens qui font de l'innovation, c'est des gens qui créent des startups. Mais quand même, sur le plan managérial, ils nécessitent, bien sûr, un encadrement managérial et un
Bien sûr.
coaching, etc. Hein? Voilà.
Donc, et est-ce qu'il y a des aides pour les startups?
Oui, il y a la réglementation, surtout le ministère des startups. Son but, c'est justement aider ces jeunes, organiser des synergies entre eux, etc. Voilà.
Alors, ce qui est passionnant dans les ressources humaines et entre la France, quand on compare la France et l'Algérie, c'est qu'ils ont un même socle, une même mécanique commune. Est-ce que c'est
Oui,
toujours vrai?
on peut le dire, bien sûr.
Donc, ce qui veut dire qu'une entreprise française qui aimerait s'implanter ne serait pas du tout dépaysée en termes de RH avec l'Algérie.
Je ne pense pas. Je ne pense pas. Bien sûr,
Est-ce qu'il y
on
a...
peut, si on peut rester humble, bien sûr, il y a toujours des besoins, il y a aussi des manques, mais toujours est-il, quand il y a un partenariat avec des entreprises françaises, bien sûr, certainement qu'on peut dire que les entreprises françaises, on peut dire qu'elles sont un peu avancées par rapport à la nôtre, peut-être, oui, pourquoi pas.
Et donc, quel intérêt aurait une entreprise devenir une petite structure? Alors, les grosses structures sont déjà implantées, il y a des partenariats qui sont depuis des années, mais une ETI ou une TPE un peu grosse, quel intérêt elle aurait à venir en Algérie?
C'est-à-dire qu'elle s'implante en Algérie pour investir, ou je ne sais pas, la question n'est pas encore claire pour moi.
Oui, ben si elle doit
Oui.
investir, quel est l'argumentaire pour qu'elle investisse?
Ah, pour l'investissement. L'argumentaire, c'est pas le marché algérien, il est porteur déjà. L'Algérie, elle est dans une très bonne position géographique par rapport aux pays du Sahel, les pays du Nord, etc. Donc, je pense qu'on est bien placé, et surtout l'Algérie, l'État algérien est en train d'encourager tout ce qui est investissement extérieur.
Alors, quelle est la place de l'Algérie par rapport à l'Afrique ou l'africanité, comme on dit aujourd'hui? Est-ce que c'est une porte ouverte ou quelle est sa posture?
C'est une poste. Donc, on dit que l'Algérie, c'est la porte de l'Afrique,
Oui,
déjà.
très bien.
C'est la force de l'Afrique. Donc, on est ouvert pour tout ce qui est investissement. Moyennant, bien sûr, que c'est les gens qui investissent, soit dans tout ce qui est production, soit dans tout ce qui est savoir et technologie, surtout. Maintenant, on a besoin de. N'importe qui a besoin maintenant de la technologie, de l'IA, l'utilisation de l'IA. Tout ce qui est modernisation de l'outil de production, modernisation de la gestion, utilisation digitale dans la gestion aussi. Tout ça, c'est vraiment, je peux dire que c'est des points qui sont très essentiels dans tout investissement. Voilà.
Alors, on entend parfois certains dire que l'Algérie, c'est sa plus grande force, c'est sa jeunesse.
C'est sa jeunesse, je le confirme, parce que les statistiques le disent aussi, l'Algérie, c'est 70% de jeunesse.
Ah
Donc,
oui, très.
c'est une jeunesse, je peux dire, très perfectible. Il y a beaucoup de jeunes universitaires qui sont d'ailleurs, même à l'étranger, qui travaillent bien. Ma fille, maintenant, elle est dans un laboratoire américain à Paris. Ma fille, moi-même. Donc, il y a pas mal de jeunes. Quand ils trouvent l'environnement correct, je pense que c'est des génies, je peux le dire. Et comme les universités, il y a beaucoup de sortants d'universités dans la technologie, dans tout ce qui est système informatique, dans le digital, enfin, je peux dire qu'il y a pas mal de spécialités là où nous avons beaucoup de jeunes. Beaucoup de sortants d'université qui cherchent bien sûr à développer leurs compétences avec des partenaires étrangers, bien sûr.
C'est quoi les grosses entreprises algériennes?
Les grosses solutions. Bon, d'abord, lorsqu'on fait le diagnostic maintenant des entreprises algériennes, on peut le diviser en deux. Il y a le secteur public. Il y a aussi le secteur privé. Maintenant, c'est le secteur privé qui domine. Si je prends, par
D'accord.
exemple, là, le département où je suis maintenant, qui s'appelle Borj, c'est à l'est d'Alger. Borj, c'est la capitale de l'électroménager électronique.
D'accord.
Je ne sais pas si vous connaissez Condor. Vous avez des produits Condor en France.
Alors, il me semble voir ce que c'est, mais je ne suis pas trop sûr, mais il me semble un peu. Ouais.
Si. Condor, c'est le plus grand groupe industriel dans l'électroménager. C'est le leader africain dans l'électroménager. Moi, j'étais le directeur général de Condor Academy, c'est l'école de Condor, justement, du groupe
Ah, très
Condor.
bien.
Et pendant 2 ans chez eux. Donc, les grands groupes sont très bien organisés. Ils ont investi beaucoup dans tout ce qui est technologie. Ils ont investi dans le savoir. Si je vous donne, par exemple, un chiffre, par exemple, le groupe Condor, moi j'étais bien sûr dedans, en 2024, on avait formé 2250 salariés.
Ah, c'est
Parce
bien.
qu'il y a l'académie, c'est à l'intérieur du groupe. Donc, en 2250, en 2025, certainement, parce que moi, j'ai quitté le mois de décembre. Donc, peut-être qu'on va arriver jusqu'à 2500 à peu près. Donc,
D'accord.
on forme beaucoup, parce que les entreprises sont obligées de dépenser les 2% de la masse salariale annuelle pour la formation au profit de leurs salariés. C'est une obligation réglementaire, d'accord. Et maintenant, il y a la tendance que les entreprises privées, surtout, qui dominent bien sûr le champ économique, une grande partie de ces entreprises disposent déjà en leur sein des écoles, ce qu'on appelle les académies. Il y avait l'académie Condor, l'académie Tayal, l'académie Renault aussi à Alger. Donc, il y a pas mal d'académies qui sont déjà versées dans la formation de leurs salariés en sens justement. Voilà.
C'est le même phénomène qu'on retrouve en France, où effectivement, en France, il y a une forte internalisation des académies parce que les entreprises veulent reprendre la main sur les contenus. Et donc, c'est le même phénomène qu'on a. Donc, c'est très, très comparable. Est-ce que les écoles sont, est-ce qu'il y a des écoles privées? Et est-ce que, par exemple, une entreprise peut se mettre en partenariat avec des écoles? Est-ce que c'est quelque chose qui est autorisé, qui est facile? Ou
Salut,
compliqué.
en Algérie.
Oui, en Algérie.
Je sais pas, quand on dit l'entreprise, je pense il n'y a pas de partenariat direct. Je parle des écoles privées. Nous, on travaille, on fait des formations à la carte. À la carte,
D'accord.
elle est destinée justement pour les cadres des entreprises. Donc,
D'accord.
voilà. Donc, l'entreprise exprime son besoin, bien sûr, le besoin en formation. Et puis, c'est à nous d'offrir les compétences nécessaires pour assurer des formations chez eux. Voilà, c'est ça
Et donc, est-ce qu'il y a beaucoup d'organismes privés, d'organismes de formation privée, ou est-ce que c'est très c'est public ou moitié-moitié?
Pas moitié-moitié. C'est le public qui domine, parce que
D'accord.
la formation, lorsqu'on dit la formation professionnelle, déjà elle est encadrée par le ministère de la formation et de l'enseignement professionnel. Donc il y a environ 1200 établissements de formation
D'accord.
répartis en instituts de formation pour les TS, techniciens supérieurs niveau 5. Il y a aussi les IFP qui font l'accompagnement pédagogique. C'est des instituts de formation professionnelle qui sont versés beaucoup plus dans l'accompagnement pédagogique de ces instituts et des centres de formation professionnelle. Donc, nous avons les CFA pour les CAP, nous avons l'INFSP pour les techniciens supérieurs, Institut national de formation professionnelle. Et nous avons aussi, bien sûr, maintenant la tendance va vers la nouveauté pour 2025-2026. C'est la création des centres d'excellence par branche. Donc,
D'accord.
le ministère a initié C'est la création de ces centres. Donc, il y a en tout dans le projet, en prévision, il y a on peut dire jusqu'à 18 centres d'excellence, donc dans pas mal de domaines. Nous, par exemple, ici à Barge, nous avons le centre d'excellence dédié à tout ce qui est électroménager, électronique. Ces centres d'excellence viennent après les centres de l'INFSP. Parce que lorsqu'on voit le premier niveau, c'est le niveau CAP. Et puis, vous avez le niveau technicien, niveau technicien supérieur, et il n'y a rien après. C'est-à-dire, maintenant, on crée des centres d'excellence qui deviennent le pont entre l'université, la licence et le niveau 5. C'est-à-dire, on a créé presque le niveau, on peut dire le niveau 6, au niveau des instituts de formation professionnelle. C'est-à-dire, on donne encore la chance à ces jeunes stagiaires qui sortent avec un diplôme de technicien supérieur, au moins aller vers un niveau aussi supérieur qui est le niveau 6. Et ces centres d'excellence sont créés en partenariat avec les entreprises. Stéphane, vous m'avez compris. Donc, lorsqu'on dit centre d'excellence, il y a un partenaire derrière, un partenaire économique. Donc, si on prend le centre d'excellence en électroménager électronique, c'est le groupe Condor qui est partenaire. Donc, il y a dans les 18 centres d'excellence, chaque centre est spécialisé dans un domaine. Donc, le domaine de la plasturgie, le domaine des services, le domaine de tout ce qui est énergie renouvelable, etc. Donc, ça, c'est les centres d'excellence, ce qu'on appelle, nous, les centres d'excellence créés par le ministère de la Formation professionnelle en 2025 et 2026.
Ah oui, non, c'est très bien. Et sous l'autorité de l'État, ce qui est un garant de qualité.
Déjà, il y a le partenaire économique avec eux. C'est bien. C'est-à-dire que le centre d'excellence travaille pour l'entreprise partenaire. Et aussi pour les autres entreprises qui ont des produits similaires. Voilà. Voilà ou bien des activités similaires.
Très bien. Donc ça, c'est une belle innovation et donc ça démarre à peine. Et donc, ça devrait se faire sur 2 ans.
Oui. Le centre d'excellence, c'est des projets. Donc, c'est des projets, mais à partir de 2026, 2025 aussi, il y a des centres qui sont déjà opérationnels. Lorsqu'on prend le centre d'excellence énergétique à Alger, donc il était déjà avec Schneider, le
Ah.
partenaire, c'était Schneider. Maintenant, il y a un autre partenaire. En tous les cas, chaque centre d'excellence, il y a un partenaire économique.
Très bien.
Voilà.
Donc ça, c'est une bonne chose. Et donc pour une entreprise qui serait intéressée, comment est-ce qu'elle fait pour se dire, bah, moi, j'aimerais créer un pôle d'excellence, un centre d'excellence.
Oui.
C'est quoi la démarche?
Vous créez directement un centre d'excellence ici en Algérie. Ça dépend dans quel métier aussi.
D'accord.
Il ne faut pas que ça tombe avec un métier, par exemple. Si on a un centre d'excellence en électroménager, je ne pense pas on va encore créer un autre.
Ah oui.
Il est préférable d'être partenaire. On fait un partenariat que créer un centre d'excellence en parallèle, je pense. Hein.
Bien sûr. Ce qui
Si
est
vous avez.
normal d'ailleurs.
Si quelqu'un, bon, mais ils sont ouverts. Ils sont ouverts au partenariat. Elle est réglementée, même le partenariat avec des étrangers, qui apportent de la technologie, pourquoi pas?
D'accord. Donc c'est intéressant, d'autant plus que en Algérie, donc on voit qu'il y a une main-d'œuvre de qualité. Quel est le, je me posais la question en écoutant justement sur tous ceux qui travaillent dans l'industrie, quel est le salaire moyen d'un Algérien?
Bon, il y a d'abord le salaire, le SNMG, le salaire national minimum garanti, qui est passé
D'accord.
à 24 000. Je ne sais pas si vous connaissez le dinar algérien, c'est 24 000.
Non.
Le salaire minimum, 24 000, c'est. Enfin, on va faire la conversion après.
Mais en gros, pour donner un chiffre.
Bon, le salaire moyen, peut-être ça équivaut à, disons, à 60 000 à peu près. 60 000 dinars. 60 000 dinars. Le dinar, il est à 150. 150, je ne sais pas.
Donc, ce qui
Alors,
fait 400 euros à peu près.
ah, 400 euros, je vais le faire. 10 ans. 10 ans, 400. Présent, 400 à 500 euros.
Ah, d'accord, très bien. Oui, donc c'est très intéressant, effectivement. Et pour un cadre supérieur,
Il n'y a pas de limite parce qu'il y a la négociation. Quelqu'un qui a de la compétence, automatiquement, c'est. Vous commencez peut-être jusqu'à 2000 euros, 3000 euros, 4000 euros, et puis à l'infini.
mais ce qui fait une main-d'œuvre qualifiée en quantité à un prix intéressant. Donc c'est ça aussi qui est pas qui est un, qui crée des opportunités de partenariat parce qu'on se dit c'est une filière qui peut se nourrir de talents ou qui peut investir sur place pour travailler différemment avec les talents sur place.
Bien sûr, c'est que je cherche. Bon, tout ce qui est partenariat, c'est, je peux dire, c'est accepté, voilà.
Alors, dans la question de transfert, est-ce que le français reste une langue très développée?
Pour l'instant, oui, bien sûr.
D'accord. Donc les jeunes parlent français, pour le dire différemment.
Pas tous les jeunes. Surtout les qui ont suivi maintenant de l'université, bien sûr, c'est les jeunes. Peut-être qu'ils ont des difficultés, mais pour l'instant, il y a toujours le français qui est utilisé dans les entreprises.
Ce qui est une chance inouïe pour pouvoir partager, évidemment.
On peut affirmer que pratiquement toutes les entreprises, presque toutes les entreprises utilisent le français. Je parle des entreprises économiques. Hein.
Pas les petites. À la limite, peut-être des petites structures, c'est moins. Mais dans toutes les entreprises un peu structurées, très bien. Donc c'est
Oui.
un atout fort.
Bien sûr, même l'enseignement. À l'intérieur de ces entreprises, l'enseignement il est fait en français, pratiquement.
D'accord, très bien. Donc, quand je dis très bien, ce n'est pas une critique, mais c'est pour dire que ça facilite aussi les partenariats et la francophonie
Oui,
est un atout. Voilà, exactement.
bien sûr.
Et donc, quels sont, pour toi qui as l'habitude des ressources humaines, en Algérie, quels sont les grands chantiers des ressources humaines?
Les grands chantiers des ressources humaines. Je ne sais pas comment répondre. Quels sont les grands chantiers? Bon, la ressource humaine, pour nous, elle a besoin de formation, surtout
D'accord.
avec les nouvelles technologies à l'utilisation, bien sûr, la réalité virtuelle, l'IA, le digital, la création des, je sais pas, des contenus pédagogiques.
Oui, très bien, oui.
C'est important parce que maintenant il y a un changement, je le réaffirme parce qu'il y a un changement radical dans la pédagogie, voilà, là où il y a le transfert de connaissances.
Alors, qu'est-ce qui change dans la pédagogie?
Hein? Qu'est-ce qui change? D'abord, le tableau change. Il n'y a plus de tableau. Il y
Ouais.
a, moi, derrière moi, il y a un tableau interactif.
Très bien.
Il n'y a plus de tableau, il n'y a plus de marqueur. Oui, voilà le changement. Déjà, ça, c'est un changement. Le transfert de connaissances avec des tableaux interactifs, c'est un bouleversement de la pédagogie. Hein.
Oui, bien sûr, complètement, absolument.
Il y a aussi les cours qui sont préparés par l'IA. Vous avez des vidéos, maintenant, il y a des vidéos. Cours, on peut aussi utiliser nous-mêmes des vidéos de transfert. On peut travailler sur tout ce qui est la formation à distance, le e-learning. Maintenant, c'est accepté aussi, c'est toléré, voilà. L'utilisation de la formation à distance, elle est pratiquement à la mode.
Est-ce que comme en France, le Covid a œuvré? Parce qu'en France, il y a eu la formation à distance existait depuis longtemps, mais puisqu'elle existait depuis les années 80. Mais en France, avec le Covid, ça a changé complètement les comportements. Et les gens se sont dit, bah, finalement, pourquoi me déplacer loin si finalement je me connecte et ça marche? Est-ce
Je
que c'est
pense que
pareil en Algérie?
ouais, c'est pareil, mais je pense que la formation hybride, elle est meilleure. À mon avis, je préfère un peu de présentiel.
Bien sûr.
On peut le faire à distance, mais aussi le présentiel, il peut aussi aider.
Et les infrastructures sont de quelle qualité en Algérie?
Hein?
Dans tout ce qu'est le numérique, le taux d'équipement, est-ce que les connexions sont bonnes?
Normalement, tout va bien, bien sûr. Moi, j'ai une salle avec des ordinateurs, et une salle avec des écrans interactifs, des grands écrans. Donc, on est avec la technologie, voilà.
D'accord.
Pas
Donc ça.
mal de qui ont par exemple, si on prend le groupe Condor, l'académie de Condor, les académies privées. Je vous assure que quand on les voit, c'est digne d'une grande école.
D'accord. Donc
Voilà.
ça c'est bien parce que ça permet des passerelles, des pédagogies différentes. Donc c'est vraiment c'est intéressant comme approche. Est-ce
Ouais.
que, comme en France, on dit l'apprenant, on dit est au centre des apprentissages. Si on donne de plus en plus, on baisse la place des experts et on augmente la place des apprenants qui font des choses. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois aussi en Algérie?
Oui, l'apprenant, donc il y a un engouement pour la formation, c'est-à-dire les individus. Moi, je travaille, Stéphane, moi, je travaille maintenant sur la reconversion. La
Ah,
reconversion,
bien.
je travaille beaucoup sur ça. Ici, dans mon école, je travaille sur la reconversion par exemple, quelqu'un qui vient chez moi, sortant de l'université avec un diplôme de gestion, de droit, etc. Mais il n'a aucune notion pratique.
D'accord.
Et parfois, les diplômes ne sont pas demandés, ne sont pas attractifs pour les entreprises. Les entreprises veulent des gens qui travaillent, qui savent travailler. C'est des techniciens qui travaillent. Ils ne veulent pas du savoir pour l'instant. Ils veulent quelqu'un de compétent. Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut donner? Qu'est-ce qu'il peut offrir comme compétence? Moi, je travaille sur la reconversion. Si quelqu'un, par exemple, un jeune sortant de l'université, il est en chômage pendant 2 ans, 3 ans, parce que le diplôme, son diplôme n'est pas attractif pour l'entreprise, n'est pas demandé, je vais lui faire une reconversion. Dans un métier, par exemple, n'importe quel métier, CRH, comptabilité, marketing, on fait des simulations pratiques. Ce qui se fait au niveau de l'entreprise, nous, on le fait au niveau de l'école. C'est-à-dire quand il passe pour un entretien, donc il peut passer son recrutement, il peut réussir son entretien facilement parce qu'il part de l'école avec un bagage pratique. Voilà. C'est ce
Et
qu'on
tu
appelle
as
la.
des taux de placement. Est-ce que tu calcules l'efficacité des gens que tu formes en reconversion?
Oui. Par exemple, moi, en GRH, depuis la création de mon école, je n'ai jamais cessé d'arrêter de la GRH. Il y a toujours des promos. Chaque année, il y a une promo. Chaque année, il y a un promo. Chaque année, depuis 2013. Donc, les personnes
Oui.
qui passent par mon école, ils sont automatiquement versés, recrutés plutôt. Je ne dis pas versés, mais recrutés dans ces entreprises. Voilà.
D'accord. Et tu as un taux de placement, 100% sont placés?
Je peux dire presque 95%.
Ah oui, c'est bien ça. Oui.
Bien sûr, parce qu'ils sont déjà, ils sont, c'est des praticiens. Quand ils passent chez moi, c'est pratiquement une formation d'une année. Une année, par exemple, lorsqu'on parle de la GRH, par exemple, c'est quelqu'un qui peut faire la paie. C'est quelqu'un qui peut il peut faire de l'administration du personnel. C'est quelqu'un qui fait le tableau de bord. Donc, il le fait chez moi déjà. Donc, il passe à l'entreprise automatiquement compétent dans son domaine.
Et donc, et ton école s'appelle comment? Pardon, je ne t'ai pas demandé.
L'école, c'est Al-Basir Pro. Al-Basir, Alba2sir Pro.
Très, très bien. Et il y a combien d'élèves?
Ça dépend des groupes. Par exemple, le groupe de GRA, c'est une moyenne de 12, 15 apprenants par groupe. Voilà.
Comme en France, absolument. Des petits groupes, ça permet de mieux travailler.
Et oui, bien sûr, ça permet de travailler. Et puis la salle, ça, elle convient parfaitement. Bien sûr, sur le plan pédagogique, c'est des tables placées en U, donc l'enseignant peut contacter n'importe quel apprenant devant lui. Voilà.
Très bien. Donc, on a un peu un panorama qui est intéressant. On voit aussi en quoi l'Algérie peut être ce qu'elle est déjà, mais pour le rappeler à ceux qui ne le connaissent pas, peut-être un partenaire RH et formation vraiment attractif. Tu citais au début avec Alger RH, tu citais le fait de faire des événements.
Oui.
Quel est peut-être le prochain événement? Et puis pour nous parler, qu'est-ce qui se passe dans ces événements?
Voilà, le prochain, nous avons le mois d'avril une formation, pardon, j'ai dit formation. Nous avons un séminaire d'une journée uniquement dédié à l'inclusion pour les
D'accord.
personnes.
Ah, très bien.
Voilà, très bien. Et nous avons en prévision l'organisation de l'AFDIP. Avec l'AFDIP, c'est l'association africaine, bien sûr. Ça s'appelle l'AFDIP. Chaque 2 ans, il y a l'AFDIP organise par exemple, dans un pays, par exemple le Maroc, Tunisie, l'Algérie. La prochaine fois, c'est l'Algérie qui va organiser l'année 2026. En principe, c'est nous qui vont organiser le premier colloque international sur des thématiques qui gravitent autour de la fonction RH. Donc,
Très, très bien.
il y aura des experts de chaque organisation ou bien de chaque association similaire qui
Et
vont
donc,
participer.
tu as la date?
On n'a pas encore arrêté la date, mais ça sera peut-être les derniers mois de l'année 2026, parce que ça incite une organisation
Bien sûr.
colossale.
Absolument. Donc déjà, il y a un événement qui se passe en avril. Tu as donné
En
la date en avril?
avril, ce sera la dernière semaine d'avril.
Très bien. Et donc, est-ce que les gens qui veulent s'inscrire peuvent venir?
Quel genre de personnes?
Si les entreprises, si des entreprises sont intéressées, est-ce qu'elles peuvent s'inscrire une fois que le programme est établi?
Oui, si par exemple le thème les intéresse, pourquoi pas? Oui, ça
Très
dépend du
bien.
thème.
Exactement. Donc,
Mais
ben.
on peut utiliser, pardon, monsieur Stéphane,
T'en
on
prie.
peut, mais il y aura peut-être même l'intervention de monsieur Jean-Marie Periti lors de ce séminaire du mois d'avril.
Alors, tous les auditeurs alors, qui ont la gentillesse de nous suivre depuis longtemps le connaissent parce qu'il était intervenu et donc il avait fait une très belle émission dessus. Donc, c'est un gage de qualité et donc de prestige. Donc, n'hésitez pas. En plus, c'est en avril, il fait mauvais temps, souvent en France. Donc, si c'est le cas, c'est l'occasion d'apprendre.
En tous les cas, je vais vous donner la parole. Je vais vous donner la parole.
Exactement.
Vous pouvez intervenir, il n'y a aucun problème, avec plaisir.
Ben, très bien.
Je vais le noter.
Donc, c'est avec plaisir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme. Donc, tu as parlé de l'Arforg avec laquelle tu étais partenaire. Là aussi, on a plusieurs fois interviewé l'Arforg. Donc, ça veut dire effectivement qu'il y a une vraie énergie qui se passe entre tous les pays en Afrique et du Maghreb sur les ressources humaines et des vrais lieux d'échange.
Bien sûr, surtout avec la Tunisie et le Maroc, on a très bien travaillé. Lorsque le Maroc organise des colloques ou des universités d'été, donc on nous faisait inviter, donc on est avec eux. La Tunisie aussi, on a travaillé beaucoup avec l'association tunisienne. Et nous aussi, quand on organise des séminaires, on les invite à assister et on les invite à intervenir dans le colloque, bien sûr.
Très, très bien. Donc, ben, si vous faites des choses, des événements, n'hésitez pas à le dire à la FEN. On vous interviewera alors un peu avant le démarrage, bien sûr, pour que les gens
Oui.
puissent s'inscrire. Mais ça sera avec plaisir. Et comme ça, nous, on en fait publicité. Et franchement, ça vaut la peine parce que ce que vous faites, ce sont des belles choses. Donc, n'hésite pas à faire le lien puisqu'on a la chance de se connaître maintenant. Dans ces cas-là, on fera le relais avec plaisir.
Voilà. Donc, j'ai dit tout à l'heure, parmi les missions de la GRH, c'est l'organisation des congrès, des conférences et des séminaires, des ateliers. On organise aussi les cafés RH, les demi-journées, sur des thématiques. On invite, par exemple, nous, on peut vous inviter un jour de faire une intervention de tout ce qui est café RH sur un
Avec
thème.
plaisir.
Bien sûr, à toi de le présenter. Voilà, c'est ça. Le but de la GRH, c'est faire connaître les fonctions, bien sûr, les fonctions de la formation, etc. Tout ce qui est perfectionnement des hommes, des salariés, des systèmes de gestion, etc. Donc, on essaie de proposer, bien sûr, l'expertise, parce que l'association regroupe pas mal d'experts. Qui sont à l'intérieur, soit adhérents, soit en parallèle à l'association, qui c'est des personnes qui participent avec nous sans être adhérents. C'est des gens qui interviennent dans l'animation des séminaires, l'animation soit des études, etc. Voilà.
Eh bien, ça sera avec plaisir. Donc, alors, si on veut te contacter, parce qu'on a apprécié ce que tu dis, ou on a des questions qu'on aimerait te poser, c'est quoi ton média? Tu es sur LinkedIn? C'est quoi ton média de prédilection? D'accord.
LinkedIn, WhatsApp, c'est toujours la WhatsApp, LinkedIn. Mais toi aussi, tu me donnes l'adresse mail, comme quoi je peux vous envoyer même
Bien sûr.
nous avons une revue personnelle, ce qu'on appelle le courrier personnel. Donc, c'est une revue qui est périodique. Je peux t'envoyer une copie au moins par mail, etc. Pour avoir
Ah,
une
très,
idée.
très bien.
Pour avoir une idée de.
Bien, si tu pouvais m'envoyer tous les liens pour que les gens qui veulent s'abonner puissent la suivre à distance, donc c'est avec
Oui.
plaisir. On le mettra dans les notes de l'émission.
Très bien. OK.
Eh
OK,
bien,
nous sommes.
merci, Lamri Moussaoui. Donc, c'est une très, très belle présentation de Alger RH. Et c'était la première fois qu'on faisait une émission ensemble. En tout cas, c'est une belle émission. Merci de l'avoir fait avec nous. Et j'espère qu'il y en aura d'autres.
Voilà, merci à vous et à tous les auditeurs qui ont suivi.
Merci à tous. Au revoir.
Merci, au revoir.